CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the Internet at CIUT.FM or live from our studio. Popori Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Brad Pitt, Elton John, Diego Maradona, voici quelques-unes des stars attendues pour le 72e Festival de Cannes. Interview, critique de films, montée des marches, France 24 vous fait vivre l'événement avec chaque jour plusieurs rendez-vous depuis la Croisette à ne pas manquer.
Vivez en direct.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
France Inter.
Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour.
Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça?
Ben pourquoi pas?
Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Popori Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popori Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Bonjour, bonjour, où que vous soyez, cette émission vous provient en duplex, 40 degrés à l'ombre, s'il vous plaît. Eh oui, Popori Show vous offre, madame, monsieur, votre dose hebdomadaire de culture, de découverte et de savoir. Merci à tous ceux et celles qui étaient nombreux à participer. On reçoit encore des chèques et des commentaires, des suggestions, des confidences aussi, des témoignages. Merci, merci mille fois. On parlera de tous ces, enfin, le profil, hein, de ses adeptes de Popourri Show. Ah oui, ça fait plaisir. Bonne nouvelle, la campagne a pris fin dimanche soir, mais se poursuit toujours avec près de 118 000 dollars à ce jour. C'est avec donc beaucoup, beaucoup d'enthousiasme que l'équipe de Popourri a tenu cette campagne de mobilisation et de renouvellement d'adhésion la semaine dernière grâce à des nombreux bénévoles, des invités de marque. On va les remercier, bien sûr, en les nommant avant la fin de cette émission. Merci encore. Tirage au sort d'un grand prix, hein, ne pas oublier d'un voyage pour deux en Croatie. Dépaysement, authenticité, carrefour de culture. Allez sur le site très vite si vous n'avez pas encore fait un don à la radio, à l'émission Popourri Show, hein, à ne pas rater. Et des billets cadeaux aussi du bistrot Sauvignon, le bistrot Sauvignon de notre ami français breton de coin de Leslieville. C'est pas loin de Woodbine et Queen. Allez faire un tour et vous dites que vous avez entendu le nom du bistrot Sauvignon à la radio aujourd'hui. Et qui sait, peut-être Stéphane vous donnera un petit cadeau, un petit verre de vin, de champagne. Et oui, allez sur le site www.cut.fm/donate-today et là vous allez faire le nécessaire pour devenir membre ou encore renouveler votre abonnement. Ou encore envoyez-nous un message si vous voulez passer une annonce, un message à la radio ou un scoop. popourri@cut.fm. N'appelez pas parce que nous ne sommes pas en onde. À Toronto. Nous sommes en onde, mais décalage horaire, qu'est-ce que je raconte? 2019, madame, monsieur, Kassav fête ses 40 ans. Découvrez les dates de concert tout au long de cette émission et gagnez un exceptionnel cadeau coffret de ma part. Ouais. Et je vous invite à zouker chaque dimanche avec les mix et les remixes de notre grand méchant zouk. DJ Devera qui est avec moi, madame, monsieur, jusqu'à 13h et votre serviteur anime et produit cette émission chaque semaine, 32 ans déjà. Aujourd'hui, en ce dimanche 19 mai 2019, je vous invite à gagner des billets pour le prochain concert de l'ensemble vocal Les Voix du Cœur, prévu le 1er juin prochain, 25 ans. Deux saisons, il faut le faire et j'espère qu'on aura quelqu'un très prochainement de cet ensemble pour venir partager un peu leur péripétie mais aussi leur coup de cœur, leur succès tout au long de ces 25 ans. Allez, vous avez deux paires de billets que vous offrent les Voix du Cœur. Allez sur leur site www.lesvoixducœur.com. Concert le 1er juin prochain, dimanche 19 mai, aujourd'hui au menu. On célèbre bien sûr, célébrer, je ne sais pas si c'est le mot, mais c'était pour marquer le 17 mai, c'était la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et la biphobie. Le thème de cette année, la violence en ligne et nous aurons des témoignages anonymes, les stratégies pour lutter contre l'homophobie dans les écoles, le milieu du travail, sur les campus universitaires. Vous allez voir, c'est pas jojo, hein. Pourquoi chez certains nouveaux arrivants sur les campus universitaires au Canada, l'homosexualité est toujours tabou? L'Afrique est-elle homophobe? Où en est l'homophobie dans le monde? C'est la question que nous venons de recevoir. Des personnalités se mobilisent dans un clip. Pourquoi les médias ont-ils si peur? Enfin, certains médias ont si peur de parler de l'homophobie. Résultat d'un sondage au Canada, au Québec et au Canada, oui. Et puis, les films pour dire non à l'homophobie. Cannes 2019, rumeurs, critiques, prédictions de la Palme d'Or, spectacle à concert, les meilleurs DJ. Peut-être on aura un scoop de ce DJ vers 12h45, nous dit-on. Et RFI est en direct et aussi France 24 sur la croisette. Du 17 jusqu'au 28 mai avec 17 envoyés spéciaux qui assurent des reportages, des émissions spéciales et des journaux critiques de films en 7 langues, s'il vous plaît, il faut le faire. Parmi nos invités correspondantes de ce dimanche et toute la semaine, Bérénice Balta, Sophie Torlotin et Valérie Lehoux de Radio de RFI et Catherine Ruel qui analyse les films sélectionnés par la quinzaine des réalisateurs et la Semaine internationale de la critique dont RFI est partenaire. Chronique santé, le docteur Frédéric Saldman nous donne quelques conseils d'hygiène. Merci à notre partenaire commanditaire Reflet Salvéo. Allez sur le site pour découvrir les avancées et aussi les projets, les initiatives de Reflet Salvéo. www.reflet-salvéo.ca. L'Université de l'Ontario français est encore une fois à la une d'un magazine francophone. Quel sens donner à ce projet? Un article très intéressant signé Serge Miville et Stéphanie Chouinard, les deux professeurs, pour l'association francophone pour le savoir. Et côté média, un journaliste peut-il ou peut-elle être forcé à dévoiler ses sources? Très grande question et une question qui m'intéresse personnellement. La Cour suprême du Canada s'en mêle. On aura les résultats très prochainement. Francophonie ontarienne, des poètes et artistes de l'Ontario, de la francophonie canadienne s'unissent. En signe de solidarité à la communauté franco-ontarienne, un nouveau et tout beau livre que j'ai entre les mains, Madame Monsieur, vient de sortir du collectif des poètes francophones de l'Ontario. Poème de la résistance sous la direction d'André Lasselle aux éditions Prise de Parole. Et chaque dimanche, nos micros seront ouverts à un de ces poètes de ce collectif. Appelez-nous si cela vous intéresse, si vous êtes à l'écoute. France Europe, eh bien, la Tour Eiffel fête à ses 30 ans. Joyeux anniversaire avec un show au laser exceptionnel que nous avons assisté cette semaine. Les élections européennes se déroulent du 23 au 26 mai de cette année. La campagne électorale bat son plein et avec elle son lot de déclarations. Les élections européennes, je vous rappelle, auront lieu le 25 mai sur le continent américain et dans les Caraïbes. Consultez le site web du Consulat général de France de Toronto afin de connaître les modalités de vote dans les bureaux de vote de Toronto et d'Ottawa. Attention, à Toronto, les bureaux de vote seront localisés cette année au lycée français de Toronto. Allez sur le site du Consulat général de France de Toronto pour tout savoir. Et puis la grande finale Eurovision 2019, hier soir à Tel Aviv, en Israël, malgré l'incroyable show de Bilal Hassani qui représentait la France, les Pays-Bas, grand favori de cette prestation. Et oui, il faut aussi dire qu'il y avait la déesse Madonna qui était au rendez-vous à cette 64e édition de l'Eurovision, ponctuée de messages politiques. Et puis, quoi d'autre? Eh bien, la question du dimanche. Je suis de retour après 136 000 ans d'absence. Qui suis-je? Je suis de retour après 136 000 ans d'absence. Qui suis-je? Répondez correctement, madame, monsieur, en envoyant votre réponse immédiatement à popourri@cut.fm et courez la chance de gagner, tenez-vous bien, madame, monsieur, un tout nouveau t-shirt, nouveau design de CUTFM, la radio qui vous mène jusqu'au bout du monde. Et oui, un petit mot. Je veux ici vous remercier. Vous avez été nombreux à contribuer au succès de notre campagne de levée de fonds la semaine dernière. Et nous continuons à recevoir des chèques et des dons. Un grand merci pour votre contribution, votre attachement à la radio. Nous avons aussi entendu vos suggestions, vos cris de cœur, vos confidences pour une radio libre, traitant des sujets que d'autres médias n'osent pas en parler, des sujets sans tabou. L'actualité internationale, la santé, l'égalité des chances, le racisme, le réchauffement climatique, la discrimination, l'homophobie et la transphobie. Tant d'attentes, mais je dois vous signaler, madame, monsieur, et vous rappeler que nous sommes qu'une toute petite équipe et nous faisons tous du bénévolat. Et priorité sera quand même donnée aux sujets qui font les manchettes ou encore toute question urgente pertinente de l'heure. Et oui, le dimanche 12 mai, ce que nous avons appris, les donateurs ne sont pas tous des francophones. Plusieurs francophiles et anglophones ont manifesté leur appréciation avec des dons très, 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 très généreux. Et pour eux, pour elles, cette émission est une sorte d'évasion chaque dimanche. Ils aiment les montages, mais aussi les musiques qu'on passe à la radio. Et je veux ici dire un grand merci à tous nos invités et membres engagés. Janine Maillard, de la fondatrice du Festival Compazouk de l'Ontario. Diane Chaperon-Laure, une grande amie de la radio, femme engagée, témoin de la francophonie, de cette évolution de la francophonie, plus de 40 ans. Bernard Indefo, qui est notre nouveau partenaire, collaborateur, et les fondateurs et directeurs généraux Educ Nation Consulting Inc. Merci mille fois. Cacerera Cavoa Irei, il est philosophe et professeur de littérature francophone d'Afrique et des Antilles à l'Université d'Ottawa, qui voulait absolument être des nôtres la semaine dernière. Monsieur Jean-Pierre Boué, entrepreneur, chroniqueur à l'Express de Toronto, agent de spectacle, président de l'association et directeur de l'équipe à Francofoot à Toronto. Merci. Clément Yonta Ingune, il est enseignant dans la région d'Ottawa et il a fait un très beau travail pour nous dans cette région et j'espère lui parler très prochainement à l'émission. Donc, nous vous remercions chaleureusement du fond du cœur pour votre soutien tout au long de l'année et aussi nous vous tiendrons informés de nos prochaines manifestations et actions. Comme vous savez, tout n'est pas joué. La situation en CUT est toujours dans l'impasse avec cette nouvelle politique du gouvernement Ford voulant supprimer absolument les médias sur les campus communautaires. Merci, merci à tout le monde. On s'en va au buzz. Et oui, les buzz de la semaine, le monde de l'éducation en ébullition, de la plateforme hashtag ONFR, on peut lire cette semaine que s'est tenu un sommet à l'Université d'Ottawa consacré à la pénurie d'enseignants francophones. Un envers du décor parfois explosif pour les étudiants. Ce sommet intervenait 3 jours après l'annonce de la ministre du Tourisme, des langues officielles et de la francophonie, Mélanie Joly. Et cette enveloppe de 62,6 millions de dollars sur 4 ans pour combattre la pénurie d'enseignants. Ce sera très intéressant de voir si jamais ils perdent les élections, enfin les libéraux. Est-ce que M. Scheer, le parti conservateur, qui semble être très favori dans les sondages, est-ce qu'ils vont poursuivre cette même politique, continuer à financer pour les francophones pour combattre la pénurie d'enseignants? Très intéressant à suivre. Autre crise avec des conséquences majeures à long terme. Le Conseil scolaire public anglais de Toronto a annoncé cette semaine qu'il devra supprimer des centaines de cours optionnels et fermer ses programmes, des programmes de soutien aux élèves afin de respecter les nouvelles exigences de la province. Le Conseil scolaire anglophone indique qu'à compter de septembre, 547 cours à option et 187 cours obligatoires pour les élèves de 9e et de 10e année seront annulés ou regroupés dans des classes plus grandes pour faire face aux réductions du financement provincial. Des compressions de plus de 12 millions de dollars au programme d'immersion sont à prévoir également. Décision qui ne fait pas l'affaire de tout le monde. Et oui, de nouveaux chiffres de Statistique Canada montrent que les demandes d'asile ont plus que triplé au pays de 2015 à 2017, mais que cette croissance a commencé à ralentir à partir de 2018. Ces statistiques sont publiées au moment où le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Hamed Hussein, décide d'annuler dès maintenant la politique du gouvernement Harper sur les pays d'origine désignés comme étant sécuritaires pour certains demandeurs. L'étude montre par ailleurs que la situation économique de ces demandeurs s'améliore avec le temps lorsqu'ils obtiennent leur résidence permanente. Et puis tous les 18 mai, à travers le monde, la communauté haïtienne de partout dans le monde célèbre la création de son drapeau national. L'événement date de 1803. À Toronto, la cérémonie du lever du drapeau haïtien s'est déroulée hier devant l'hôtel de ville de Toronto. Pour les membres de la communauté, cette cérémonie se voulait un moment important. Depuis les coupes drastiques affectant les franco-ontariens, certains élus francophones de l'Ontario ont de la peine à s'y remettre. Les rumeurs se confirment. Nathalie Desrosiers et Marie-France Lalonde, deux députées libérales francophones, jettent l'éponge. Alors que le mouvement de résistance contre les coupures dans les services en français par les troupes progressistes conservatrices bat son plein, depuis 6 mois, l'AFO, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, soutient que ces deux politiciennes ont sans aucun doute contribuer à faire avancer la cause des franco-ontariens, et ce, autant que sur les banquettes de l'opposition que du gouvernement. Je rappelle que Nathalie Desrosiers a été nommée directrice du collège Massé, affiliée à l'Université de Toronto, tandis que Marie-France Lalonde s'est dit intéressée à se lancer dans la course à l'investiture pour représenter le Parti libéral du Canada dans Orléans, dans l'est de l'Ontario. L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario se désole de ses démissions et elle espère que les députés en question, les députés qui succéderont à ces deux, seront francophones. Voilà. Le Collège Boréal a dévoilé mardi dernier dans les locaux du Conseil pour l'articulation et le transfert Ontario, organisme responsable du développement du système de mobilité étudiante à travers la province, des partenariats avec 5 universités francophones et bilingues permettant aux étudiants de Boréal de poursuivre un parcours universitaire sur le campus de la Distillerie District à Toronto, et ce à partir de 2021, et ainsi compléter un baccalauréat. En France, acte 27 des Gilets jaunes, mobilisation à son plus bas niveau depuis le début du mouvement. Et puis du magazine Jeune Afrique, Algérie, depuis la démission de l'ex-président Bouteflika, le chef d'état-major Ahmed Gayad Salah mène une vaste purge contre des personnalités accusées de complot contre l'autorité de l'État. L'accusation se fonde principalement sur des contacts avec les réseaux de Saïd Bouteflika. Mais qui a rencontré qui? C'est la grande question à lire absolument dans le magazine Jeune Afrique. Et je vous invite aussi à découvrir le classement du magazine Jeune Afrique des 100 Africains les plus influents du continent. De nombreuses personnalités africaines occupent en effet des postes éminents dans les institutions internationales, mais rares sont celles à y occuper les plus hautes fonctions. L'édito du magazine Jeune Afrique, le secrétaire de la défense américaine, John Bolton, est un homme dangereux selon le Tunisien Béchir Ben Hamed. Je vous rappelle qu'il est le fondateur du Jeune Afrique et président directeur général du groupe Jeune Afrique. Une très bonne analyse à lire absolument sur John Bolton, secrétaire de la défense américaine. C'est l'homme le plus dangereux selon lui. Et puis l'Université de l'Ontario français, quel sens donner à ce projet? C'est un article apparu dans le magazine de l'Association francophone pour le savoir, signé par notre amie et collaboratrice, professeure et docteur Stéphanie Chouinard du Collège militaire de Kingston, voilà, et Queen's University. Je rappelle que Serge Miville aussi a signé cet article. Il est professeur à l'université Laurentienne à Sudbury. Les deux professeurs apportent un regard critique, analytique sur la petite histoire des luttes et des avancées des francophones de l'Ontario dans les dossiers de l'éducation en Ontario. Et les deux professeurs reconnaissent d'emblée que l'Université de l'Ontario français cherche un consensus pour pallier les critiques. Oui, en effet, il y en a eu des critiques. Et j'entends encore des cordes discordantes chez certains professeurs, experts en éducation, y compris des fonctionnaires du gouvernement de l'Ontario, qui disent ne pas saisir très bien les différences ou les complémentarités entre les autres universités et l'Université française de l'Ontario. Donc, il y a encore des questions qui font ombrage à ce projet, il me semble, en ce moment. L'article nous rappelle ce fameux 1er décembre 2018 où 14 000 franco-ontariens et alliés ont descendu dans les rues de la province pour dénoncer les compressions c'était au commissariat au service aux Français, en français, et aussi à l'Université de l'Ontario. Donc, si tout le monde n'est pas d'accord avec les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle université, force est de constater que le principe d'une université de langue française jouit en Ontario français d'un large consensus. Et oui, cet appui populaire doit être compris dans une optique du désir de faire société de la communauté franco-ontarienne. Très intéressant comme analyse. Et en effet, c'est par l'entremise d'institutions telles qu'une université que cette minorité assurer sa capacité de transmettre sa culture, c'est-à-dire d'intégrer en son sein, voire d'être maîtresse de son destin. Si le gouvernement provincial de l'Ontario s'entête à lui refuser cette institution clé, les tribunaux accueilleront peut-être cette revendication avec une plus grande magnanimité. Voilà, c'est un article à lire absolument, madame, monsieur, et je remercie beaucoup Stéphanie Chouinard qui nous a envoyé ce tuyau. Je vous rappelle qu'elle est collaboratrice à cette émission et elle analyse l'actualité politique, mais aussi tout ce qui se passe au niveau linguistique. Elle est vraiment très intéressée à ce qui se passe, pas seulement en Ontario, mais à travers le Canada. Et peut-être nous l'aurons très prochainement à la radio. À bon entendeur, salut!
This is Ken Stauer, station manager at CIUT-FM. Everyone at CIUT, staff and volunteers alike, would like to thank those who donated during our membership drive. We appreciate the massive support from the community that helped us achieve our goal of $100,000. However, you can still say yes to community radio by donating today at CIUT.FM. Everyone that donates before May 31st will be eligible to win our grand prize, a trip for two to Dubrovnik, Croatia, including round-trip airfare and accommodation. Keep fighting for the sound of your city to stay on the air.
CIUT 89.5, Toronto.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Dans un instant, la chronique santé de notre partenaire Reflet Salvéo. Dans un instant. Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins, des bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo. Et oui, l'été s'en vient, je l'espère, bientôt là où que vous soyez. Je vous rappelle, cette émission vous provient en duplex, 40 degrés à l'ombre, s'il vous plaît. Et donc, l'été s'en vient, et avec l'été, bien sûr, on se pose beaucoup de questions, surtout quand on va pique-niquer avec la famille, il y a des enfants. Alors, les questions d'hygiène se posent. Et justement, dans notre chronique santé, parrainée par Reflet Salvéo, le docteur Frédéric Sadman nous donne quelques conseils d'hygiène.
Docteur Frédéric Salman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cardiologue et nutritionniste à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Pour être en bonne santé, il faut bien s'alimenter, avoir une activité physique, mais aussi avoir une bonne hygiène. Alors, quels sont vos conseils hygiéniques, entre guillemets?
Alors, l'hygiène, c'est essentiel pour être en bonne santé. Ça permet de passer au travers de bien des infections et d'éviter de prendre des antibiotiques pour un oui, pour un non. Alors, il y a des tas de conseils d'hygiène. Je n'aurai pas le temps de tous les citer, mais par exemple, on a fait une enquête sur les tables de restaurant. On s'est aperçu qu'une table sur deux, on retrouve des germes fécaux qui viennent des selles sur les tables. C'est pas appétissant. Et alors, on met sur les tables directement nos mains, on met le pain, les couverts, on mange les frites avec les doigts. Autrement dit, les germes fécaux d'un autre, vous les retrouverez dans votre bouche. On comprend pourquoi. En période de gastro-entérite, tout le monde est malade.
Donc le premier conseil, c'est quoi? C'est se laver les mains?
Se laver les mains. Et si vous mangez directement sur une table sans nappe, eh ben, nettoyez-la bien. Parce que c'est quand même la base. Sinon, c'est comme si vous mangez dans une assiette sale.
Autre règle d'hygiène?
Si vous lavez les mains pour aller aux toilettes, eh ben, préférez vous laver les mains avant de faire pipi. Pourquoi? Parce que vous serrez des mains douteuses, vous touchez des surfaces souillées. Autrement dit, des bactéries, des virus qui se trouvent là vont se trouver sur vos organes génitaux, garçons comme filles. Et on comprend pourquoi, parfois, on a des infections, on ne sait pas où on les a attrapées.
Donc il faut se laver les mains avant et après.
Après, c'est par convivialité. Avant, c'est vraiment important.
C'est pour soi. C'est vraiment un dernier conseil encore d'hygiène.
Quand vous allez aux toilettes, on va y rester. Tiens, rabattez le couvercle avant de tirer la chasse d'eau. Sinon, il y a un effet aérosol. Il y a des virus, bactéries, plein de carrelage, plein votre gorge, plein vos poumons. Et avec ce simple geste, vous diminuerez d'un tiers les infections respiratoires.
Merci, docteur Frédéric Salman. Je rappelle que vous êtes cardiologue et nutritionniste à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris.
Écouter est la plus grande des qualités. Écouter les enfants, les parents, les professeurs et les coéquipiers. Les discours fous des pionniers. Écoutez votre instinct et croyez en vos idées. Écoutez votre cœur et les visions encore inexprimées. Écoutez le présent et les échos du futur. Ne pas seulement entendre, écoutez. Parce que c'est seulement quand nous écoutons que nous pouvons comprendre, que nous pouvons trouver des solutions intelligentes, que nous pouvons progresser. C'est seulement en écoutant ce qui compte que nous pouvons créer des solutions qui comptent elles aussi. C'est de là que tout provient. Ce n'est pas seulement en nous, c'est notre nom.
Je serai déjà loin. Je disparais, mais je n'oublie rien. Je n'oublie rien. Je laisse ma vie derrière moi. En quelques secondes, tout s'en va. Tout s'en va. Chaque instant, chaque jour, de l'amour,
sans limite et sans retour,
de l'amour, celui qu'on peut vivre en jour, de l'amour, pour toujours, de l'amour.
Et oui, le 17 mai, c'était la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie, la biphobie, le thème de cette année, la violence en ligne. Avant de passer à certains témoignages, je vous rappelle que vous entendez en ce moment une très belle chanson intitulée « De l'amour pour lutter contre les LGBT-phobies ». Près de 70 personnalités se sont rassemblées bénévolement pour y répondre par cette chanson « De l'amour ». Parce que dans certains pays du monde, être homosexuel ou transgenre est toujours considéré comme un crime passible d'emprisonnement ou de peine de mort. Parce qu'avec plus de 15% d'agressions physiques supplémentaires enregistrées dans notre pays en 2018 par rapport à l'année précédente, ils ne sont toujours pas libres de s'aimer ou d'assumer leur identité, même dans notre pays, le Canada. Je rappelle que cette chanson a été lancée en 2017, Urgence, Tchétchénie, devenue urgence homophobie, qui a aidé plus de 40 réfugiés et réfugiées en danger de mort dans leur pays. De l'amour, très belle chanson. Comment construire une école inclusive dans laquelle les élèves homosexuels pourraient pleinement s'épanouir? Je pourrais aussi ajouter des élèves transgenres, il y en a de plus en plus. Dans une certaine ville, dans un certain pays, ce 17 mai 2019, la direction de l'école organisait un séminaire pour tenter de répondre à la question. Dans l'auditoire, un étudiant, victime de harcèlement, de discrimination. Il s'est installé parmi les derniers rangs, en toute discrétion. Devant lui, une centaine de personnes, militants, associatifs, universitaires et personnels de l'éducation, venus débattre de la situation des élèves homosexuels, transgenres, dans cette école que je ne nommerai pas. Tout juste arrivé de notre ville, Maxime, 17 ans, a tenu à faire le déplacement. Sur le siège, juste à côté de lui, l'un de ses principaux soutiens depuis la découverte de son homosexualité 3 ans auparavant, sa mère, Nathalie. La problématique de l'homosexualité en milieu scolaire laisse sur leur visage un sourire désabusé. Tout avait pourtant bien commencé pour le jeune homme jusqu'à la fin de sa classe. Au moment où il révèle son homosexualité à ses camarades et à ses professeurs. Une confession courageuse, décomplexée, mais lourde, lourde de conséquences. Insulte après insulte, Maxime a à plusieurs reprises pensé au pire. Une mère de famille et auditrice m'a dit ceci récemment. Moi, ce qui me révolte le plus, c'est que les professeurs n'interviennent pas alors que les insultes ont toujours lieu au sein des classes. Et malheureusement, ce genre de situation existe bel et bien ici à Toronto, en Ontario, au Canada, aux États-Unis. Selon mes sources, sur les campus universitaires, y compris en Ontario, des jeunes francophones gays, trans et bi sont constamment harcelés, maltraités, discriminés. Et il semble que certains enseignants et professeurs ne sont pas équipés pour régler ce genre de situation. Selon des études, les jeunes homosexuels sont 3 à 5 fois plus susceptibles de réaliser des tentatives de suicide. Témoignage d'un étudiant victime d'homophobie. Reportage.
Tu quittais le lycée, que tu rentrais chez toi, le harcèlement continuait, mais cette fois sur les réseaux sociaux, c'est ça?
Sur Snapchat, il y avait un groupe de la classe, c'est devenu un peu le défoulement de toute la classe, où ils m'insultaient, ils insultaient mes amis.
Ça doit être extrêmement difficile de supporter ça pendant des mois.
On ne sait pas à qui s'adresser. Si on va dire quelque chose, on se fait passer pour une balance. Et qu'ensuite, on peut avoir des problèmes. Je sais pas, moi, je voulais pas me faire casser la gueule ou avoir des trucs comme ça. Donc, j'ai rien dit.
Est-ce que les profs, ils voyaient ce qui se passait?
Pour moi, oui, ils le voyaient, puisque quand on m'insultait en classe devant les profs et que...
À voix haute?
À voix haute, bien sûr, qu'ils le criaient même. Que même les professeurs étaient au courant de mon orientation.
Et à aucun moment, il y a un prof qui est intervenu pour dire au harceleur d'arrêter?
La seule fois où j'ai voulu parler à un prof en début d'année, il m'a dit fallait que je mette un peu du mien. Je suis parti parce que je comprenais pas, en fait.
Et est-ce que tes parents savaient que t'étais homosexuel à ce moment-là?
Oui, bien sûr. Oui, je leur ai dit bien avant. Et du coup, ma mère est venue me voir et m'a demandé ce qui se passait. C'est là où j'ai craqué, je me suis mis à pleurer et en fait, je lui ai tout raconté.
Donc, en fin d'année scolaire dernière, tes parents vont voir l'équipe encadrante du lycée, c'est ça? Et font remonter ces problèmes. Et qu'est-ce qui se passe ensuite?
Ils s'excusent auprès de ma mère et auprès de moi en disant qu'ils n'étaient pas du tout au courant, que les 4 harceleurs ne seraient plus présents à la rentrée 2018.
Ils n'allaient plus être acceptés pour une année suivante.
Ouais. Et c'est là où, à la rentrée, j'ai vu qu'il y avait encore deux de mes harceleurs dans l'établissement. C'est de là où maintenant même je n'ose même plus aller aux toilettes des garçons. Ma surveillante avait dit d'aller dans les toilettes des filles pour que je sois tranquille. C'est ce que j'ai fait. Je suis allé dans les toilettes des filles et le directeur était juste m'a vu sortir des toilettes des filles, m'a appelé, il m'a dit que je n'étais pas une fille, que je n'avais pas le droit d'aller dans les toilettes des filles, que moi c'était les toilettes des garçons en bas. Bah, c'est de là où j'ai pleuré pour la première fois au lycée et c'est de là où j'ai craqué et j'ai appelé mon père. Alors avant que mon père arrive, j'ai eu un entretien avec mon directeur où il m'a fait comprendre en fait que bah, si j'avais pas parlé de mes problèmes, on n'en serait pas là.
C'est-à-dire si t'avais pas dit que t'étais harcelé ?
Si j'avais pas dit que j'étais homo, on n'en serait pas là. Il me l'a pas dit ouvertement, mais il me l'a fait comprendre. Si tu n'avais pas parlé de ça, on n'en serait pas là.
Et t'as décidé de changer de lycée ?
Oui.
Là aujourd'hui, dans ton nouveau lycée, ça se passe comment ?
Ben, ça se passe bien. L'esprit, elle est plus ouverte.
Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui à des centaines de jeunes garçons et de jeunes filles qui sont probablement dans ton cas, qui subissent du harcèlement au quotidien dans leur collège, dans leur lycée, à cause de leur orientation sexuelle?
De parler, de parler à leurs parents, de faire quelque chose, parce que c'est grâce à ça qu'on peut faire avancer les choses. Par exemple, une formation pour les professeurs dans les établissements obligatoire sur ce type de problème.
Qu'est-ce que tu voudrais dire aux harceleurs, s'ils pouvaient t'entendre?
Que j'espère qu'ils vont regretter ce qu'ils ont fait, qu'ils vont ne plus jamais recommencer ce qu'ils ont fait, parce que c'est vraiment horrible.
Le 17 mai, c'était la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie, la biphobie. Le thème de cette année, la violence en ligne. Selon un article et reportage de Radio-Canada, les étudiants internationaux ont souvent un choc culturel en arrivant au Canada. Eh oui, où l'identité sexuelle et l'homosexualité sont ouvertement discutées et affichées. Un projet pilote dans 3 universités canadiennes vise à faciliter leur adaptation. Donc, je vous invite à découvrir les péripéties de l'alum Womas, qui a quitté le Togo en 2018 pour rejoindre sa famille, sa belle-sœur à Winnipeg. Diplômé universitaire en physique, il veut compléter les cours nécessaires pour enseigner à l'école secondaire au Canada. Et il constate, dès son arrivée, qu'il y a un écart énorme entre le Togo et le Canada sur plusieurs questions sociales, dont l'identité sexuelle. Il dit, je cite, « Dans mon pays, ce sont des questions presque taboues. L'homosexualité, je dirais que c'est difficile, vraiment difficile d'en parler. Ça a été un choc dans le sens où des questions qui ne sont pas sujets de discussion deviennent des sujets de discussion ici au Canada. » Eh oui, comme bon nombre d'universités canadiennes, l'université de Winnipeg accueille de plus en plus d'étudiants internationaux. Un étudiant sur 4 provient d'un pays étranger, surtout de pays d'Afrique francophone. Chose certaine, un climat d'intolérance règne sur certains campus universitaires, je dirais parmi les nouveaux arrivants, surtout d'origine africaine, et certains étudiants LGBTQ n'osent toujours pas de s'afficher par crainte, je dis bien par crainte, d'actes homophobes ou de rejet. C'est triste. On est au Canada, madame, monsieur. Où en est l'homophobie dans le monde ? Reportage.
Où en est l'homophobie dans le monde ? Aujourd'hui encore, la situation des homosexuels dans le monde est toujours très préoccupante. À l'échelle mondiale, il existe encore 71 pays où l'homosexualité est illégale. Dans 4 États et 4 régions du monde, en Afrique et au Moyen-Orient, la peine de mort est même appliquée pour la punir. La situation est également difficile dans le monde occidental. Aux États-Unis, par exemple, où le FBI recense depuis 20 ans les crimes haineux contre les homosexuels, la tendance est la même. 1281 victimes de crimes homophobes en 1996 et toujours 1263 aujourd'hui. Ces chiffres sont tout de même à nuancer, car dans le même temps, la population américaine est passée de 270 à 325 millions d'habitants. En France également, certains indicateurs montrent que la situation des personnes homosexuelles ne s'améliore pas du tout. Ainsi, en 2016, l'association SOS Homophobie a recueilli 1575 témoignages de victimes, soit presque 250 de plus qu'en 2015. En vérité, en dehors d'un pic au moment de la manif pour tous, ce chiffre reste à peu près stable depuis 10 ans. Pourtant, certaines données tendent à montrer qu'il y a matière à espérer. Le nombre de pays pénalisant l'homosexualité a beau être très élevé, il a nettement baissé depuis les années 60. Par ailleurs, en 2018, près d'un milliard de personnes dans le monde vivent dans un des 25 pays qui autorisent le mariage homosexuel. En l'an 2000, zéro personne était dans ce cas. Enfin, sur le plan des mœurs, les choses évoluent lentement. Aux États-Unis, par exemple, entre 1999 et 2015, la proportion d'Américains qui déclaraient ne pas vouloir d'une personne homosexuelle pour voisin a légèrement baissé, passant de 30 à 20%.
Et oui, selon un dernier sondage, les Canadiens croient à tort que la situation des LGBTQ s'est améliorée. Un dernier sondage révèle que les Canadiens surestiment les conditions de vie de personnes LGBTQ dans le monde. Ce constat ne traduit pas une absence de sensibilité de la population, mais plutôt un manque d'information selon certains organismes. Et oui, et je vous rappelle que le coût de sonde réalisé auprès de 1548 Canadiens, Canadiennes, permettent notamment d'apprendre que plus des deux tiers des répondants estiment que la situation des LGBTQ s'est améliorée ou grandement améliorée au cours des cinq dernières années au Canada. Cette même proportion de la population croit que moins de 50 pays criminalisent l'homosexualité dans le monde. En effet, beaucoup de Canadiens reconnaissent qu'il y a eu beaucoup d'avancées au pays, au Canada, ce qui peut donner l'impression que c'est la même chose dans le reste du monde. Bien que la situation se soit améliorée dans certains pays, on reconnaît que certains pays font des pas de géant, par exemple en Australie, et tout récemment, Taïwan, qui devient le premier pays asiatique à légaliser le mariage homosexuel. Et puis, il y a des statistiques concernant les meurtres de personnes trans qui sont très préoccupants. Quand les groupes sont dans le placard, on voit moins de violence. Mais quand ils commencent à s'affirmer, il peut y avoir une réaction négative. Donc, il y a des gros enjeux à débattre si on veut s'attaquer au problème. Au niveau du gouvernement fédéral, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a exprimé sur plusieurs tribunes internationales son soutien à ces questions. Mais dans la pratique, il faut voir ce qui se passe. Tous les Canadiens ont intérêt, à mon avis, à s'intéresser davantage à cet enjeu. Et il ne faut oublier que plusieurs nouveaux arrivants ont été ostracisés dans leur pays d'origine en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Quel accueil existe chez nous pour ces gens? Quels sont les organismes de la région qui sont à la défense des droits de ces personnes gays, bi, trans et francophones par-dessus le marché? À mon avis, c'est important de s'y intéresser pour développer un sentiment de solidarité avec eux. Ce même sondage indique par ailleurs que 54% des Canadiens pensent que leur gouvernement devrait lutter de façon plus proactive contre l'homophobie et la transphobie dans le monde. Ce sondage a été réalisé au début du mois d'avril pour le compte de la Fondation Émergence à Montréal. Nous passons à un autre témoignage sur l'homophobie.
J'étais dans la rue avec ma petite amie, on se tenait la main et un homme est venu nous dire qu'on était des abominations de la nature et qu'on irait brûler en enfer. Depuis, nous n'osons plus nous tenir la main en public. J'ai eu le droit à des propos comme ce n'est pas naturel, tu n'as pas le droit de vivre, tu es une ordure. J'ai même reçu de la nourriture dessus à la cantine. Je reçois des piques de la part de mes proches tels que ma chérie, si tu aimes les femmes, je ne suis plus ta leur mère. Si ma mère savait que tu es bi, elle ne me laisserait pas être avec toi. Ma copine et moi recevons des propositions de plan à 4, des garçons nous interpellent et nous appellent les gouines. Parfois même on nous klaxonne dans la rue, du coup on n'ose plus se tenir la main en public. Je me suis déjà pris un coup de poing au visage au collège pour avoir dit à une fille que je la trouvais jolie. Aujourd'hui j'ai trouvé quelqu'un dans ma vie et on reçoit des insultes parce qu'on se tient la main en public. Mon copain et moi étions sur le quai en attendant le train. On se tenait les mains et on s'est embrassés. Deux hommes sont arrivés avec un air agressif et nous ont dit: vous n'avez pas honte? Comment vous pouvez faire ça devant des enfants? J'ai mes enfants à côté, qu'est-ce que je vais leur dire? Ça s'est déroulé devant un train rempli de gens et la seule personne qui est intervenue était une femme qui n'était même pas plus grande que nous. J'avais annoncé à une amie que j'étais bisexuelle, puis ça a fini par se savoir dans ma classe. Pendant une semaine j'ai été insultée, bousculée, on m'a même jeté des sacs dessus. Ça s'est calmé avec le temps mais j'ai dû finir par nier ma bisexualité pour être tranquille. Aujourd'hui je regrette de m'être cachée pour qu'on arrête de me faire du mal. J'ai 23 ans et j'ai fait mon coming out à l'âge de 16 ans. Depuis, mon beau-père me frappe et m'insulte de tous les noms: pédé, sale merde, bâtard. Ma mère en a marre mais n'ose pas intervenir parce qu'elle a peur de se faire frapper aussi. J'ai fait mon coming out en 3ème et mes amis étaient les filles de ma prof de russe qui a fini par le savoir. Elle m'a dit que j'étais une mauvaise influence pour ses filles et que j'étais une perversion humaine. Au collège, des élèves m'attendaient même à la sortie pour me frapper. Je suis bi et je suis sortie avec une fille de mon lycée. Pour les autres, être bisexuel voulait dire aimer les filles, les garçons et être zoophile. Quand on était toutes les deux, on nous forçait à nous embrasser. Quand je prenais mon bus, on me lançait des cailloux et pour les trois quarts de ma classe, on avait soi-disant une odeur qui nous collait à la peau. J'étais âgée d'environ 11 ou 12 ans, j'étais au collège et j'essayais d'affirmer ma bisexualité. Ça m'a apporté que du mal, je retrouvais mon sac dans les toilettes. Un jour, je suis sortie du collège pour aller à mon bus et un gars s'est approché de moi avec un couteau pour me dire que j'étais un cancer pour l'humanité. Quand j'ai fait mon coming out à mes amis, leur réaction était: j'espère que tu n'es pas amoureuse de moi. Suite à ça, je les ai vus s'éloigner de moi progressivement et pareil pour mes grands-parents qui ont pris leur distance. Dans ma famille, seuls mon frère, ma sœur et ma mère sont au courant. Je ne peux pas le dire à mon père parce qu'il nous a menacés avec mon frère il y a quelques années. Il nous a dit qu'il nous amènerait consulter quelqu'un s'il apprenait l'homosexualité de l'un de nous. J'ai 14 ans et je suis en 3ème. Au collège, je subis de l'homophobie au quotidien. Ça passe par des regards méchants, des paroles dans mon dos, des croche-pieds et des coups de poing dans le bras. Quand on a appris pour ma bisexualité dans mon lieu scolaire, j'ai subi des attouchements de la part de garçons qui disaient que ça allait me guérir. Je suis pansexuelle et au collège, des personnes ont décidé de glisser des mots dans mon sac. Tu ne mérites pas de vivre, salope, tu es un déchet, va te pendre. Je suis bisexuelle, je suis sortie avec une fille et tout allait pour le mieux. Elle m'a présentée à ses parents, mais ils n'étaient pas au courant qu'elle était lesbienne. Son père m'a pris à part dans une pièce et m'a crié dessus pour me dire que deux filles ensemble, c'est totalement immoral. Il a aussi dit qu'il refusait que sa fille parte dans cette voie-là et que c'était à cause de moi. Au travail, des collègues m'ont dit que ce n'était pas possible, que je n'avais pas une tête de lesbienne. Puis un autre homme a dit qu'aujourd'hui on autorise tout le monde à être marié, les homosexuels et pourquoi pas les chiens. Aujourd'hui, je n'ai fait que citer le témoignage d'un nombre minoritaire de victimes, sans compter celles qui restent dans le silence suite au traumatisme ou celles qui ne se sentent pas en sécurité pour pouvoir dévoiler leur souffrance. Si vous êtes témoin ou victime d'un acte homophobe, vous pouvez contacter SOS Homophobie au numéro suivant, ou vous pouvez même les contacter directement sur leur site internet sos-homophobie.
Le 17 mai, c'était la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, la biphobie. Le thème de cette année, la violence en ligne. Merci beaucoup à ceux et celles qui nous envoient des messages, même de Paris. Eh oui. Selon une étude réalisée par l'organisme Afrobaromètre, sur 33 pays du continent, continent africain, 78% des Africains préféreraient ne pas avoir de voisins homosexuel. Reportage.
En Afrique, revendiquer sa préférence pour une personne de même sexe s'apparente à une opération suicide. Selon un sondage, 78% des Africains préféraient ne pas avoir de voisins homosexuels. Certaines nations se montrent toutefois un peu plus tolérantes. Dans le top 4, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, le Mozambique et la Namibie. A l'inverse, les moins amicaux envers les gays et lesbiennes sont les Sénégalais, Guinéens, Ougandais, Burkinabés et Nigériens. Un manque de tolérance qui n'est pas surprenant quand on constate qu'un seul pays africain reconnaît des droits aux homosexuels. L'Afrique du Sud autorise l'adoption et le mariage aux personnes de même sexe. Sinon, 33 pays criminalisent encore l'homosexualité. Dans 31, être homosexuel est passible de prison jusqu'à perpétuité dans certains cas. La peine de mort est même encore appliquée en Mauritanie, au Soudan, dans certains états du nord du Nigeria et dans des régions du sud de la Somalie. Ailleurs, soit dans 20 pays, il n'existe pas de loi pénalisant l'homosexualité, ce qui ne signifie pas qu'on peut y vivre sereinement ses préférences sexuelles. Les cas de lynchage et de châtiment corporel sont encore nombreux. L'homosexualité y est même présentée comme une perversion importée de l'Occident. Et au sommet des États, rien n'est fait pour améliorer la situation.
Au nom de quoi on doit penser que parce que ailleurs, on pense que l'homosexualité doit être dépénalisée, que ça doit être une loi universelle. Au nom de quoi?
Do you personally dislike homosexuals?
Of course, they are disgusting.
We equally reject attempts to prescribe new rights that are contrary to our values, norms, traditions and beliefs. We are not gays.
À croire que les présidents africains ont oublié l'histoire de leur propre pays. Non, l'homosexualité n'est pas arrivée avec les colons. Chez les Ganguillas d'Angola, les Béti du Cameroun, les Akans de Côte d'Ivoire, les Azandés du sud-ouest du Soudan ou encore les femmes Kundo au Congo, l'homosexualité était pratiquée lors de rites initiatiques. Et les jeux érotiques entre personnes du même sexe étaient aussi acceptés dans de nombreuses sociétés où femmes et hommes vivaient séparés dès l'adolescence.
La condition des homosexuels ne se résume pas aux lois existantes. Lynchage, viol, de redressement et châtiment corporel sont fréquents en Afrique, en Haïti et dans d'autres endroits sur le continent américain ou même au Canada, peut-être, qu'on ne sait pas toujours. Alors qu'au sommet de ces États africains, on présente l'homosexualité comme une perversion importée de l'Occident. Nous remercions la collaboration de France 24 et Radio France Internationale pour la réalisation de cette émission spéciale. À ne pas oublier, chaque année, 17 mai, journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Que faites-vous dans votre quotidien, dans votre communauté, pour lutter contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie? Quel est votre engagement? Vous avez un témoignage anonyme? Envoyez-nous un message à popourri@cut.fm.
Demain je serai déjà loin. Je disparais mais je n'oublie rien. Je n'oublie rien. Je laisse ma vie derrière moi. En quelques secondes, tout s'en va. Tout s'en va. De l'amour à chaque instant et chaque jour. De l'amour. Celui qu'on peut vivre en jour. De l'amour pour toujours. De l'amour, de l'amour.
Celui qu'on peut vivre au grand jour.
De l'amour, de l'amour,
de l'amour.
Je marche enfin. Je n'ai plus peur d'être qui je suis. Qui je suis.
Je m'inquiète pour mes amis qui sont perdus dans mon pays.
Mon pays. À chaque instant et chaque jour.
De l'amour, sans limite et sans retour.
De l'amour, celui qu'on peut vivre au grand jour. De l'amour, pour toujours. De l'amour, de l'amour, de l'amour,
celui qu'on peut vivre au grand jour.
De l'amour.
Thank you.
Et madame, monsieur, à ne pas oublier notre question du dimanche. Je suis de retour après 136 000 ans d'absence. Qui suis-je? De retour après 136 000 ans d'absence. Qui suis-je? Répondez correctement en envoyant votre réponse à potpourri@cut.fm et courez la chance de gagner un tout nouveau t-shirt, tout nouveau design de CIUT 89.5 FM, la radio qui vous mène jusqu'au bout du monde. Et je vous rappelle que nous vous revenons avec la Croisette, eh oui, Cannes, en direct, et aussi peut-être un DJ, peut-être, oui, oui. Émission duplex, 40 degrés à l'ombre, je vous laisse avec les grands titres, les manchettes de Radio France Internationale à Paris.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you funk, soul, and everything in between on Higher Ground with Jason Palma. Thursday nights at 8. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
This is Ken Stauer, station manager at CIUT-FM. Everyone at CIUT, staff and volunteers alike, would like to thank those who donated during our membership drive. We appreciate the massive support from the community that helped us achieve our goal of $100,000. However, you can still say yes to community radio by donating today at CIUT.FM. Everyone that donates before May 31st will be eligible to win our grand prize, a trip for two to Dubrovnik, Croatia, including round-trip airfare and accommodation. Keep fighting for the sound of your city to stay on the air.
Spring is here, and there's no better time to give biking a try. Bike Month kicks off on Monday, May 27th, with a 30th annual Bike to Work Day group commute to Nathan Phillips Square, and continues until the end of June with all kinds of events across the city. Anyone can host a Bike Month event. From rides to festivals to film screenings, there's something for everyone. You could win one of six $300 MEC gift cards just by signing up to ride on Bike to Work Day or during Bike Month. Bike Month 2019 is coordinated by Cycle Toronto and supported by local partners.
CIUT 89.5 Toronto.
Jean-Baptiste Marot.
Bonjour à tous. Les grands titres de ce dimanche 19 mai, c'est d'abord le président autrichien Alexander Van der Bellen qui souhaite que les législatives anticipées annoncées hier soir dans le pays aient lieu au mois de septembre à la suite du scandale qui touche sa coalition droite-extrême droite au pouvoir à Vienne depuis un an et demi. Le chancelier Sébastien Kurz a décidé d'un retour aux urnes. On vote ce dimanche en Suisse, référendum sur une nouvelle loi qui prévoit de durcir l'acquisition de certaines armes. Le texte provoque la colère des amateurs de tir sportif. Après trois jours d'interruption au Soudan, l'armée et les civils doivent en théorie se retrouver en fin de journée à partir de 19h temps universel pour reprendre leurs négociations sur la phase de transition. À l'ordre du jour, la répartition des postes clés du futur Conseil souverain, l'organe qui devrait remplacer le Conseil militaire actuellement au pouvoir. Aux États-Unis, Boeing commence à reconnaître des négligences dans la formation des équipages de ces 737 MAX dont deux exemplaires se sont écrasés fin 2018 et début 2019. À ce stade, l'avionneur parle de défauts sur les simulateurs de vol qui servaient à l'entraînement des pilotes. Il annonce des corrections sur ses logiciels. Apparemment, ces simulateurs ne reproduisaient pas exactement le fonctionnement de la dernière version du 737, mais pour Boeing, ils pouvaient malgré tout être utilisés par ses clients, moyennant quelques heures de cours supplémentaires. Les élections législatives touchent à leur fin en Inde. La septième et dernière phase a lieu aujourd'hui. 59 des 543 sièges de députés sont en lice dans le nord et l'est du pays principalement. Le scrutin a commencé il y a plus d'un mois, c'était le 11 avril. Et puis c'est un dénouement attendu par des millions de fans à travers le monde. 8 ans et 8 saisons après son lancement, l'ultime épisode de la saga Game of Thrones sera diffusé la nuit prochaine aux États-Unis avec cette grande question. Qui des protagonistes va s'asseoir sur le fameux trône de fer ?
RFI, la radio mondiale. Il y a bientôt 15 ans, RFI, une trentaine de radios d'Afrique et de l'océan Indien décidaient de se réunir afin de créer un concours permettant aux artistes du Sud de sortir de leur isolement et d'accéder à la scène internationale. Ainsi naquit le concours Découverte, qui s'est progressivement ouvert à toute l'Afrique francophone, puis anglophone et lusophone, et enfin aux Caraïbes et à l'Amérique latine. Découverte est donc bien aujourd'hui le plus grand concours musical au monde. Mais revenons à 81. Le grand gala clôturant le concours se passait à Dakar, parmi les lauréats, Nawa Doumbia du Mali.
Hey.
Cannes 2019. Rumeurs, critiques, prédictions de la Palme d'Or. Avec nos correspondants de France 24 et RFI en direct de la Croisette. Et oui, Festival de Cannes 2019, jour 5, la Croisette ausculte les mots du monde. Un week-end chargé pour les festivaliers. Ça tombe bien, il pleut en ce moment à Cannes. Un temps parfait pour le cinéma, un temps aussi pour aller découvrir les nouveaux films en compétition. Et aujourd'hui, Le lac aux oies sauvages du chinois Diao Yinan et Les siffleurs du roumain Corneliu Bouillot. La projection du film français Les Misérables fait un vrai tabac, hein, a tiré plusieurs grosses pointures, dont l'actrice américaine Amber Heard, l'humoriste Jamel Debbouze, le comédien Mathieu Kassovitz et Carla Bruni. Paris gagné pour la Québécoise Monia Chokri. C'est une personne à surveiller, madame, monsieur. D'ailleurs, elle a joué dans plusieurs films de monsieur Dolan. Eh oui, Xavier Dolan. Ah oui, donc la Québécoise Monia Chokri a gagné son pari avec son film « La femme de mon frère ». C'est dans une grande salle pleine à craquer, des rires à profusion et une projection qui s'est soldée par de longues, longues minutes d'applaudissements bien nourris. La réalisatrice québécoise Monia Chokri pouvait difficilement imaginer un meilleur scénario pour le lancement de son premier long métrage « La femme de mon frère ». Ça a été projeté mercredi soir au Festival de Cannes. C'était le secret le mieux gardé. Ah, vous avez vu Monsieur Elton John ? Sir Elton John. Et puis le grand scandale avec Monsieur Alain Delon. Est-ce qu'il faut en parler ? Eh oui, c'était le secret le mieux gardé du cinéma français. Ça y est, la sélection de ce Festival de Cannes est enfin tombé, connu maintenant de tous les critiques de cinéma à travers le monde, entre les habitués, les nouveaux visages, les inévitables à pronostic et les grandes tendances. Alors, à quoi ressemble cette cuvée 2019 ? Un reportage de notre correspondante de France 24.
Pour moi, c'est le big comeback de Cannes. C'est une super édition qui se profile, surtout la compétition.
C'est un peu une sélection quasi parfaite.
Moi, je suis vraiment surexcité. Moi, je pense que ça sera une grande année.
En compétition, 19 films, des premiers films et des soi-disant derniers films.
Ken Loach, à chaque fois, c'est vrai qu'il dit qu'il vient de faire son dernier film. Et puis Ken Loach est toujours de retour avec son scénariste Paul Laverty.
Mais aux côtés des déjà vieux routiers, des déjà palmés, des Loach, des Dardenne, quelle nouvelle tête cette année ?
En fait, c'est vraiment ça qu'on va chercher à Cannes, c'est-à-dire revoir les vieux de la vieille et voir où ils en sont, mais surtout voir la jeune génération qui arrive et qui les pousse un peu dehors.
Cinéma de genre, cinéma des genres, derrière l'hommage à Agnès Varda et un an après la montée des marches des 82 femmes, quelle place faite aux réalisatrices cette année ?
Les femmes se mettent à faire du genre. C'est génial.
C'est une ouverture à tout, aux cités, aux migrants, aux femmes, aux questions de genre, aux questions de genre, de tous les genres.
À la suite de l'annonce de la sélection, Chicha a fait la tournée des réactions. Avant les inévitables pronostics, annonce de la couleur, pas forcément de l'argent, mais de l'or, celui de Cannes.
Romantique et politique sera cette sélection. Normal, l'amour et la révolte ne sont-ils pas le sel de la vie sur Terre ? De l'histoire du monde et de la jeunesse éternelle.
Quelle compétition pour le président du jury de cette année, Alejandro González Iñárritu.
Il y a quand même un certain retour à une gourmandise, un appétit, une envie de cinéma au Festival de Cannes.
Cannes 2019, c'est à la fois le 109 et le retour des habitués. C'est Elia Souleymane, c'est Arnaud Desplechin, c'est aussi des aînés, Marco Bellocchio ou encore Ken Loach. À 82 ans, 33 films, 14 sélections et 2 palmes d'or, Ken Loach revient. Il revient avec un drame social, le bien nommé, on verra, Sorry, We Missed You. 2 palmes aussi au compteur, celle des frères Dardenne qui reviennent avec le jeune Ahmed et un film sur la radicalisation.
forcément, on est obligé de s'en emparer, c'est voilà, de ces sujets-là. Et ça m'intéresse de voir ces grands auteurs-là s'y coller, entre guillemets.
Ken Loach, c'est un peu le papy qu'on regarde du coin de l'œil en se disant ouais. Et en fait, il nous attrape à chaque fois. Je suis sûr, encore une fois, que Ken Loach devrait nous choper. Moi, je suis toujours très content de voir des films de Ken Loach à Cannes. C'est pas le lieu, on se dit que ça devrait pas être l'endroit. Et pourtant, c'est les meilleurs endroits pour aller voir les films de Ken Loach.
007. 007.
Je peux jouer avec vous ou pas?
Oui.
Comment? 007.
Cannes 2019, une édition politique, voire radicale. Première compétition, premier film cette fois avec Ladjly. Issu du collectif Courtrage Mais, Ladjly adapte son court-métrage Les Misérables pour en faire un long.
Le petit moment info culture, Victor Hugo a écrit Les Misérables ici, là. Tu vois ?
C'est là, Les Misérables.
Ouais, 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 ouais.
Mais Les Misérables, c'est peut-être moins Hugo qu'un film coup de poing sur les violences policières.
Je pense que c'est un film comme La Haine qui aura peut-être une résonance importante et je pense que c'est important que Cannes reste un festival politique avec des films coup de poing qui font l'actualité.
Les Misérables de Ladjly, je pense, sera le film dont tout le monde va parler. Parce que le titre, parce que le sujet, parce que ce réalisateur qui vient de chez Courtrage Mais, personne ne le voyait là et tant mieux qu'il soit là. À mon avis, ça va dépoter en Théâtre Lumière.
Alors, 82 femmes se tiennent sur ces marches aujourd'hui. 82, c'est le nombre de films réalisés par des femmes invitées à concourir en compétition officielle depuis la première édition du Festival de Cannes en 1946.
Cette année, le comité de sélection est devenu paritaire. Cette année, 4 femmes sont en compétition, une de plus que l'année dernière. Parmi elles, Jessica Hausner, Mati Diop, dont c'est le premier film, mais aussi Céline Sciamma et Justine Trier. 12 ans après la naissance des pieuvres, Céline Sciamma retrouve Adèle Haenel dans La jeune fille en feu. Après Victoria, Justine Trier, elle, retrouve une nouvelle fois Virginie Efira dans Sibylle.
Je pense que parmi les 19 films en compétition, les 4 films signés des réalisatrices sont les plus intéressants.
Je trouve ça intéressant, par exemple, Céline Sciamma, avec tout le talent qu'elle a, j'ai l'impression que s'il n'y avait pas eu tous ces scandales, s'il n'y avait pas eu le collectif 50-50, on l'aurait laissée dans un certain regard et d'un seul coup, on dit non, bah, cette femme, cette réalisatrice, elle a sa place en sélection officielle, la grande sélection.
Ce serait un peu la prendre de haut que de dire, regardez, on lui donne une place en compétition parce que c'est une femme. Que ce soit et Justine Trier et Céline Sciamma, ce sont des réalisatrices, des auteurs qui méritent leur place en compétition.
Cuéntame, Salvador.
Féminisme, politique et romantisme, voire mélancolie, avec Almodovar. Parce qu'avec le festival et ses 5 sélections, Almodovar à Cannes, c'est une certaine histoire d'amour.
Tienes pareja, ¿verdad? Si. Et tu? Non.
Mais aussi parce qu'avec Douleur et gloire, Almodovar revient encore une fois à Cannes, mais avec un de ses films les plus intimes, les plus personnels.
C'est aussi une manière de prendre des nouvelles de ce cinéaste qui a été créé par Cannes aussi beaucoup. C'est bien aussi d'avoir un festival qui accompagne ces gens-là et qui nous montre l'évolution de leur cinéma.
Pas de palme non plus pour lui jusqu'ici, mais c'est un favori. Prix du jury en 2014 pour Mommy, Grand Prix en 2016 pour Juste la fin du monde. 30 ans, 8 films au compteur, après l'échec de Ma vie avec J.F. Donovan, Xavier Dolan revient avec Mathias et Maxime. Il revient aux sources et peut-être un peu plus fort. En le sélectionnant, Cannes joue à la fois la carte de la jeunesse et celle de la continuité. Autre symbole de cet équilibre entre tradition et nouveauté, c'est la présence de Jim Jarmusch qui cette année ouvrira le bal et la compète.
Chardonnay.
Did she just say Chardonnay?
Yeah, she did.
Il revient avec ce Dead Don't Die, un film de zombies, ou plutôt une comédie de zombies.
What? You know, the undead. Ghouls.
Une comédie avec Adam Driver, Chloé Sevigny, Tilda Swinton et l'incontournable Bill Murray.
Je pense que c'est un formidable film d'ouverture, quoi, avec toutes ces stars, avec tout cet humour. Ça va être diffusé en même temps, je crois, dans 400 salles. Donc c'est aussi une ouverture vers la France, vers le monde. Je trouve qu'il y a des portes qui se, enfin des murs qui se sont cassés.
Cette année, c'est Thierry Frémaux qui l'a dit, le film de genre occupera d'ailleurs une large place à Cannes. Grâce à Jarmusch, grâce à Bakuro de Kleber Mendoza Filho et Juliano Dornelles, ou encore à Parasite de Bong Joon-ho.
Au niveau du cinéma du genre, c'est une sélection un peu plus sulfureuse qu'avant, ou que souvent même.
Le film de genre, c'est plus seulement maintenant des films de zombies ou des films d'horreur à la petite semaine. Tous les grands auteurs se sont emparés du film de genre et font des films de genre d'auteurs. Voilà.
En ouvrant la porte à tous les profils, sensibilités et parti pris, sur le papier, le festival cette année pourrait bien être millésimé.
참으로 시의적절하다.
quelle planète suis-je tombée ?
La planète Terre.
Bonjour. RFI.
RFI, on en fait tout un monde.
Eh oui, Cannes 2019, rumeurs, critiques, prédictions, de la Palme d'Or, spectacle, concert, les meilleurs DJ, oui, tout le monde fait la fête. Et RFI, France 24, sont en direct de la Croisette jusqu'au 28 mai avec 17 envoyés spéciaux qui assurent des reportages, des émissions spéciales et des journaux en 7 langues. Et un merci spécial à nos amis invités et correspondantes que nous avons eu l'occasion de rencontrer récemment, Bérénice Balta, Sophie Tortolin et Valérie Lehoux, ainsi que Catherine Ruel de RFI. Ensemble, elles analysent les films sélectionnés par la quinzaine des réalisateurs et la Semaine internationale de la critique, dont RFI en est le partenaire. Et justement, vous avez entendu parler dans ce reportage, Ladj Lee, c'est le Spike Lee à la française, très 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 populaire pour son film qui est à l'affiche depuis vendredi à Cannes, un cinéaste qu'on n'attendait pas sur la Croisette. Ladj Lee pourrait bien créer la surprise avec son premier long métrage, Les Misérables, en compétition officielle, un film coup de poing sur les banlieues françaises, dans lequel on suit la journée d'un policier tout juste muté à la brigade anticriminalité de Montfermeil, l'un des quartiers où avaient éclaté les émeutes en 2005. Et je vous rappelle que Amazon a été conquis par le film et en a fait l'achat. Et oui, voilà une belle histoire sur les banlieues en France. Et The Dead Don't Die. Eh oui, quand les zombies envahissent la Croisette avec l'univers étrange de son apocalypse humoristique. Reportage.
Nous sommes tous des zombies. L'humanité court à sa perte, mais sous la caméra de Jim Jarmusch, c'est une comédie.
In this peaceful town, on these quiet streets, something terrifying, something horrifying is coming.
Excuse me, we're closed.
Suite à une surexploitation des ressources, à une fracturation hydraulique des pôles, la Terre ne tourne plus bien sur son axe, ce qui fait que les morts vivants reviennent à la vie, donc sortent des tombes comme dans tout bon film de zombies. Et dans la petite ville de Centerville, une ville américaine comme il en existe des milliers, eh bien les policiers se retrouvent dépassés par cette horde de morts vivants. C'est très drôle et c'est aussi un cri d'alarme.
Oh man, this isn't gonna end well. When I was a boy, I thought of... They gravitate towards things they did when they were alive.
Coffee.
Chardonnay.
Did she just say Chardonnay? Yeah, she did.
Oui, alors c'est la première fois que Jim Jarmusch nous concocte un film de zombies. Alors bien évidemment, il se glisse dans les chaussures des grands maîtres du genre, mais dans le même temps, il lui apporte sa touche très personnelle. Alors déjà, ces acteurs qu'on adore, Tilda Swinton, Bill Murray, le nouveau venu, Adam Driver, dans son cinéma.
You look gorgeous. Oh my... Are you in this together?
Les dialogues sont exceptionnellement drôles. Je crois que ça faisait des années que je n'avais pas autant ri dans un film, quand même, film de genre. Et on peut trouver que par moments, ça, c'est un peu pépère, c'est un peu, voilà, il y a quelques longueurs dans le film, mais quand même, ça tient avec cette courbe extraordinaire qui commence, comme vous le disiez Sophie, comme une sorte de portrait d'une petite ville de province américaine qui se poursuit par un grand guignol qui a en même temps une comédie et qui se termine par un cri d'alarme sur notre époque, un cri d'alarme sur le réchauffement climatique, enfin qui dans l'Amérique de Trump prend une résonance bien évidemment très particulière.
Excuse me. Those are some pretty good cuts. You played some minor league ball, didn't you?
Well, a little class A. It was a long time ago.
Et oui, Zombie, peut-être on aura l'occasion de voir ce film à Toronto, qui sait. Et puis on regardait sur les écrans géants, bien sûr, la grande finale Eurovision 2019 hier soir, en direct de la Croisette. Je rappelle, Eurovision 2019 s'est déroulé à Tel Aviv, malgré l'incroyable show de Bilal Hassani, qui représentait la France. Les Pays-Bas, grand favori de cette prestation, aussi de la déesse Madonna qui a fait la manchette un peu partout dans les journaux en Europe, mais aussi en Israël. D'ailleurs, une ministre israélienne s'en prend à Madonna ce matin. Ah oui, et puis tout le déroulement de cette grande finale Eurovision a été ponctué, je vous rappelle, par des messages politiques. Or, on dit toujours pas de politique ici, pas de politique dans l'Eurovision. Cette 64e édition de l'Eurovision, organisée donc à Tel Aviv, a été remportée par le chanteur néerlandais Duncan Lawrence avec la ballade Arcade, une finale qui n'aura pas échappé à la politique et au conflit israélo-palestinien. La victoire revient donc cette année aux Pays-Bas. Ce jeune de 25 ans est le grand favori. Comment faire pour la France ? Qui s'en va bredouille, je pense. La France est arrivée à la 14e place. Et maintenant, de retour à Cannes édition 2019, je vous rappelle un film qu'il faut absolument surveiller. Et moi, personnellement, j'aimerais la rencontrer ici pour avoir un entretien. Hein. Grande réalisatrice franco-sénégalaise à surveiller absolument avec son film Atlantique. Premier long métrage présenté jeudi en compétition au Festival de Cannes avec notamment Binetta Sané dans le rôle de Ada, la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop livre une fable à la fois politique et onirifique sur le sort des immigrants et de la jeunesse de Dakar. Et justement, nos amis de RFI et France 24 est allé à sa rencontre. Atlantique, un film de Mati Diop.
Atlantique de Mati Diop, c'est l'un des films les plus attendus cette année sur la Croisette. C'est d'abord parce que c'est le premier film d'une jeune cinéaste franco-sénégalaise bourrée de talent, Mati Diop, que c'est la première fois qu'une femme d'origine africaine est en compétition ici à Cannes. Et qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, c'est l'histoire d'amour fou entre deux jeunes Dakarois, Ada et Souleymane. Ils s'aiment passionnément, mais poussé par la misère, Souleymane va monter sur une pirogue dans l'espoir de rejoindre l'Espagne. La pirogue sombre dans la mer et Souleymane va revenir à Dakar, revenir retrouver son aimé, mais cette fois-ci sous forme de fantôme. Le film a pris naissance au moment où j'ai su que c'est à travers le registre fantastique que j'allais raconter une certaine histoire des disparus en mer. Et ce fantastique-là, c'est un fantastique qui est inhérent à la réalité que j'ai observée et que j'ai en tout cas interprétée à ce moment-là. Et j'ai commencé, c'est une époque où j'ai commencé aussi à regarder l'océan différemment, où la notion de l'océan comme tombeau m'est apparue. C'est quelque chose qui fait partie de l'imaginaire d'une certaine histoire noire, créole, antillaise, noire. Et c'est quelque chose dont j'ai eu l'intuition en étant à Dakar en 2009 et en ressentant des liens mystérieux et troublants entre la traite négrière, la colonisation et l'immigration clandestine.
Ça,
Ce film, c'est aussi un retour vers mes origines africaines et écrire le personnage d'Ada, c'était aussi une manière de vivre à travers elle l'adolescence africaine que je n'ai pas vécue.
C'était important que le film soit aussi une grande histoire d'amour.
Oui, c'était très important parce que déjà j'adore les histoires d'amour au cinéma et quand j'ai commencé à écrire cette histoire d'amour, je me suis rendu compte que je n'avais pas de référence de couple mythique à la Roméo et Juliette noire et j'ai trouvé ça complètement dingue et ça m'a donné encore plus envie de d'écrire cette histoire, de voir ça au cinéma, que ça puisse être vu. Enfin, c'est je serais tellement contente que ça puisse. L'idée que Souleymane existe dans l'imaginaire de futurs spectateurs me c'est pour ça que j'écris ce film en fait.
Eh oui, beaucoup, beaucoup d'activités, madame, monsieur, se déroulent en ce moment où je vous parle sur la croisette. Et il y a beaucoup, beaucoup d'agents de sécurité, hein, ça je dois l'admettre. Et je vous remercie beaucoup pour vos commentaires. Je lisais justement quelques-uns de vos messages. Vous êtes nombreux à nous écouter en ce moment dans la région de Toronto, à Ottawa et aussi en France, à Montréal, dans les îles de l'océan Indien. Et justement, la question du dimanche aujourd'hui, je suis de retour après 136 000 ans d'absence. Qui suis-je? Allez, faites vite, vous avez encore quelques minutes. Et nous avons deux paires de billets pour le prochain concert de l'ensemble vocal Les Voix du Cœur à Toronto. Spectacle pour célébrer les 25 ans d'existence de cet ensemble vocal francophone le 1er juin prochain. Deux paires de billets. Et surtout, si vous êtes membre, alors faites vite. Mais si vous n'êtes pas membre, c'est pas grave. Allez sur le site de l'ensemble vocal Les Voix du Cœur pour avoir tous les renseignements. www.lesvoixducœur.com. Et là, vous aurez tous les renseignements. Et on y va pour terminer notre visite, notre balade à Cannes. La petite chanson de la petite info, le Festival de Cannes. Écoutez bien.
C'est la foire au gratin sous coco, le showbiz fait son show. Limousine est partout, ça go-go, vive les festivals. Tout le monde peut y aller, c'est très populaire. À condition de rester derrière les barrières.
Oh regardez, c'est Lady Gaga qui arrive dans sa très jolie robe en peau de couille de truite.
Au menu cette année c'est tradition, on espère voir un bonichon. Des jolies actrices à la moule, l'air naturel, la bouche en cul de poule.
Producteurs et acteurs ensemble rigolent et dire que dans deux ans il y aura des plaintes pour viol. Tout le monde est là pour le dernier Rambo, comme si on se doutait pas déjà du scénario.
Des meufs qui chialent pour faire un petit selfie
avec une blondasse qui a joué dans les ch'tis.
Ok regarde là-bas chérie, c'est Bill Murray.
M'en fous, je veux voir Paga des Marseillais.
Des réalisateurs qu'on ne connaît pas,
des films que jamais on ne verra,
avec des titres n'importe quoi.
On dirait des noms de meubles Ikea. Si tu veux y aller incognito, oublie ta Twingo, laisse tomber le costard chez Seyo. T'as l'air d'un clodo, non tu ne peux pas rentrer.
Mais allez, je suis producteur.
Ouais, tu produis des navets.
Bah ouais, je suis agriculteur. Ça passe, non? Ah.
CIUT 89.5 Toronto.
Mmh.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Le dimanche 7 juillet, Jazz à Vienne fête toute la richesse de la culture caribéenne. Composé de 17 musiciens dans la grande tradition des big bands de la Nouvelle-Orléans, le Big Band Musicopays ouvrira la soirée en proposant un mélange de rythmes traditionnels et populaires des Antilles et de mélodies afro-caribéennes avec des arrangements jazz. Pour leur nouveau disque, Tony Chasseur et Thierry Vatton sont allés puiser dans le répertoire créole des Antilles, d'Haïti et de l'océan Indien qu'ils ont transposé pour un Big Band Jazz. Pour ce plateau exceptionnel, le Big Band invitera le pianiste Alain Jean-Marie. Calypso Rose, proclamée reine du Calypso en 1972, n'a pas volé son titre. Elle est encore maintenant la porte-parole de ce style originaire de Trinité et Tobago, jadis réservé uniquement à la gent masculine. Tout un emblème qui fait de Calypso Rose une figure contemporaine de la lutte pour le droit des femmes. Dans son nouvel album, la diva de Tobago décide de revenir sur les artistes qui ont bercé sa carrière musicale et sa vie. Nat King Cole, Aretha Franklin, Angélique Kidjo, tous ont nourri la ligne de conduite que la doyenne du Calypso respecte depuis ses débuts dans les années 60. Le mariage de la musique noire et du combat social. Icône zouk des années 80, le groupe Kassav pose ses valises à Jazz à Vienne pour un concert-événement pour fêter leur 40e anniversaire. On ne les présente plus. Kassav est le groupe de tous les records, avec plus de 5 millions d'albums vendus dans le monde, plus de 50 concerts au Zénith de Paris. Kassav est également le premier groupe français à avoir rempli le Stade de France en 2009 pour le plus grand plaisir du million de personnes venues les voir sur scène ces dernières années. Kassav, qui voit le jour en 1979, a révolutionné la musique antillaise, adoubée par Stevie Wonder, Wyclef Jean, Nile Rodgers et Miles Davis.
RFI en Amérique du Nord.
Et oui, je vous rappelle, le 17 mai, c'était la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, la biphobie. Le thème de cette année, la violence en ligne. Nous avons reçu plusieurs commentaires, des témoignages aussi. Et je vous invite, madame, monsieur, à écouter attentivement notre reportage. Homosexuel, son père ne l'admet pas. Ça commence aujourd'hui. Dites non à l'homophobie.
J'ai subi de l'homophobie quand je me suis outé au collège, fin du collège. En fait, les gens ont su que j'étais considéré comme fille à l'époque. Donc les gens ont su que j'étais lesbienne. Et j'ai eu beaucoup de questions ou de remarques où les gens me disaient « Ah, t'es une gouine, tu broutes des minous, des trucs comme ça. » Et ensuite, du coup, je suis rentré au lycée. Là, tout le monde savait que j'aimais les filles, mais personne ne savait que j'étais trans. Ou par exemple, je me rappelle d'un truc où j'avais des potes qui se moquaient d'une personne trans sur leur téléphone à côté de moi. Et ils disaient des trucs genre le travelo, machin, et moi j'étais à côté, j'entendais ça. Mais personne ne savait que j'étais trans, donc je l'ai subi un peu indirectement, mais ça m'a touché quand même. Ça m'a ralenti dans mon coming out et dans ma transition, c'est-à-dire que, enfin déjà je me sentais pas prêt à en parler à ce moment-là, mais en plus, vu que l'environnement était pas safe pour moi, je me suis dit je pourrais jamais en parler en fait, et je pourrais jamais dire à mes amis que je suis trans, ou... Enfin je me demandais en fait quand est-ce que je pourrais faire ma transition si tout le monde était comme ça quoi. Ce qui aurait pu changer quelque chose dans l'épisode de transphobie que j'ai vécu, par exemple, ce serait qu'il y ait eu une personne qui reprenne mes amis, en fait. Qu'il y ait une personne dans mon groupe qui dise « Non, Travelo, ça se dit pas. Pourquoi tu te moques de cette personne juste parce qu'elle est trans, et etc. » Et juste s'il y avait une personne qui aurait pu le faire, je pense que je me serais senti mieux, je me serais senti soutenu, et je me serais senti légitime à en parler ensuite, quoi. Ce qui serait bien aussi, c'est que les adultes, que ce soit les parents, les profs, l'entourage, ne minimisent pas ce que vit la personne concernée. Une personne trans soutenue par ses parents, par des adultes, et beaucoup moins encline à faire une tentative de suicide, à être dépressive, qu'une personne trans qui ne sera pas soutenue. Et juste, c'est important de sentir qu'on est légitime, qu'on existe, et qu'on prend en compte aussi ce qu'on ressent, et que notre âge n'est pas forcément un problème. Si j'avais un autre conseil à donner aussi, ce serait de se renseigner, de s'informer soi-même, parce que ça permet de de se rendre compte des oppressions dans la société et du coup de ne pas les reproduire dans votre cercle d'amis, dans votre cercle de proches, de comprendre qu'il y a des mots qui ne peuvent pas se dire même pour rigoler, qu'on ne dit pas à un mec sale pédé parce qu'il a pleuré ou machin, parce qu'à côté il peut très bien avoir une personne homosexuelle qui va se sentir visée. Et juste voilà, ça permet de se rendre compte que c'est pas des blagues quoi. C'est pas des blagues parce que quand on est concerné, on entend ces mots tous les jours, on peut se faire taper dans la rue en se faisant traiter de pédé, on peut juste se faire insulter dans le métro parce que notre apparence plaît pas aux gens. Et du coup, entendre ça même de la part de ses potes, même en rigolant, c'est pas possible, on peut pas l'entendre encore. Et c'est juste alimenter ces clichés, alimenter cette violence. Et juste, on veut plus entendre ça quoi. Okay.
Chaque dimanche, découvrez les enjeux, l'histoire et les influences de la francophonie grâce au magazine de Radio France Internationale et votre radio CUT 89,5 FM.
Et oui, madame, monsieur, Kassav est en tournée pour fêter ses 40 ans. Je vous invite à découvrir les dates de concert chaque semaine. Gagnez un exceptionnel cadeau, coffret, 15 CD. Et Zouké avec nous, avec les remixes de notre grand méchant Zouk. Je vous rappelle que Kassav sera en Guadeloupe le 25 mai et Martinique, c'est le 31 mai. Je pense qu'ils ont même ajouté un autre spectacle et c'est vendu, alors il n'y a plus de billets. Et puis en Martinique toujours, le 1er juin, Kassav donnera un autre concert. Le 6 juillet à Amsterdam, le 7 juillet à Vienne, s'il vous plaît, festival de jazz à Vienne. Et je vous rappelle que Kassav sera aussi en tournée à Luxembourg, en Lisbonne, à Bordeaux, à Paris, à Papeete, Tahiti, s'il vous plaît, Nouméa, Nouvelle-Calédonie et Maputo, Mozambique à la fin de l'année. Alors, je vous donnerai les noms, mais pour l'instant, si cela vous intéresse d'aller en Martinique, le 25 mai, c'est dans le grand stade de Capesterre, en Guadeloupe. Et le 31 mai, c'est à Martinique, dans le grand stade ou l'Arena Appaloosa. Et justement, nous entendons un extrait de ce concert mythique, groupe mythique, Kassav, 40 ans déjà. Samedi dernier, le 11 mai, ils ont failli mettre le feu dans le stade. 40 000 personnes étaient au rendez-vous pour célébrer 40e anniversaire de Kassav et peut-être Toronto bientôt.
Tous les soirs, nous faisons les c'était un tradition.
Cassav qui fête ses 40 ans, je vous rappelle, date supplémentaire, 40 ans de Cassav en Martinique et le 1er juin, c'est complet pour une autre présentation de Cassav en Martinique et peut-être à Toronto, hein, on ne le sait pas.
On ne peut pas parler français aussi, parce que le mec a parlé français, il n'a pas transmis le droit.
Eh oui, Formidable, formidable, formidable. Et oui, le 17 mai, c'était la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Beaucoup, beaucoup de réactions. Beaucoup de gens se posent la question, est-ce que nos écoles sont des endroits sécuritaires pour les élèves bi, trans, homosexuels? Voilà une grande question. Les professeurs, enseignants, là, si vous nous écoutez dans la région de Toronto, envoyez vos messages, vos réponses immédiatement avant la fin de l'émission, enfin, à popourri@cut.fm. Et on me dit que nous avons un autre témoignage. Oui. Morgane, qui veut absolument partager son témoignage en tant que victime de l'homophobie.
Entouré par sa mère et son frère, Morgane, le bras en écharpe, porte toujours les stigmates de son agression. L'homme qui s'en est pris à lui ce soir-là, un habitant de sa rue, n'a pas caché les motifs de son agression.
Avec les insultes homophobes qu'il y a eu, genre PD, tout ça, c'est PD.
Et physiquement, il vous a agressé
hein? Ah oui, oui, physiquement, il m'a agressé, oui.
C'est passé ouais. Comment, de quelle manière, vous avez défendu comment?
Bah, je suis défendu, il m'a mis un croche-patte derrière, en fait. Et après, c'est parti de là, il voulait me pousser, il voulait me casser le bras. J'ai eu de la chance, d'ailleurs. Donc de là, je me suis défendu, hein. J'ai mis un coup de poing.
Sportif, Morgane a pu mettre en échec son agresseur. Il a néanmoins 3 mois d'arrêt de travail, un gros coup au moral. Sa famille le soutient aujourd'hui pour que cette affaire soit connue de tous.
Il a été vraiment bouleversé, mon fils, alors qu'il n'a aucune histoire. Hein. Il est homo depuis l'âge de 15-16 ans. On a vécu pas mal à l'étranger et toujours tout s'est bien passé. Et ici, c'est vrai que ça a été pour lui très choquant, en fait.
Depuis ce soir du 27 avril, Morgane n'avait pas réintégré son appartement. Trop d'appréhension. Il était retourné dans le cocon familial. Une plainte a été déposée. Il tenait à se défendre jusqu'au bout.
Pour prévenir les gens qui sont victimes d'agressions homophobes, de ne pas hésiter à porter plainte et de ne pas se laisser faire sur tout ça.
Morgane, qui est un personnage public sur Instagram, a reçu de nombreux soutiens de ses 130 000 abonnés. Son agresseur sera jugé en novembre devant le tribunal correctionnel d'Angoulême.
Écoutez la planète chanter.
Cette chanson, les feuilles mortes, me rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le voile.
Adra ben la cosa, adra ben la cosa, ding et dong.
Écoutez la planète chanter.
Là, vous entendez un des DJ qui fait fureur en ce moment, surtout le soir, la nuit, dans les boîtes, sur la croisette, Andorra, Blade Runner. C'est un remix que j'aime bien. Et pendant ce temps, nous allons vous présenter les choses qu'on aime, dont on parle pas assez dans la région de Toronto. Éphéméral passage, la 3e exposition du printemps. Présenté jusqu'au 9 juin, ça a été lancé le 16 mai, malheureusement on ne pouvait pas y être, et comprend des œuvres remarquables d'Amélie Desjardins et de Silt. Une exposition, des artistes examinent notre interaction avec le monde et interprètent l'univers qui nous entoure dans toute sa beauté et sa complexité à travers des démarches conceptuelles, respectives et la réappropriation d'objets du quotidien. Ces artistes manipulent chacun la nature et la transforment en une œuvre d'art. L'artiste Amélie Desjardins, qu'il ne faut pas rater, madame, monsieur, c'est au Distillery District à la galerie Thompson Landry. Et aussi l'artiste Silt sont reliés par des inspirations communes, c'est-à-dire le monde naturel et sa présence physique, ainsi que l'essence impermanente de la relation entre l'homme et son environnement. L'ouverture, le vernissage a eu lieu jeudi dernier et vous pouvez aller admirer ces tableaux jusqu'au 9 juin à la galerie Thompson Landry, notre partenaire. Ephemeral Passage. Et puis il y a quelque chose qui se passe, c'est même grandiose, je dirais. C'est au temps de Rembrandt. Ce sont des peintures hollandaises du musée des Beaux-Arts de Boston, qui sont actuellement au musée royal de l'Ontario. Allez faire un tour, vous aurez l'occasion de découvrir le siècle d'or hollandais à travers 70 œuvres de grands maîtres de l'époque, dont Rembrandt, Frans Hal, Jan Steen et Jacob van Roosdaal. Qu'il s'agisse de natures mortes minutieuses, de scènes de genre humoristiques, de portraits saisissants, de paysages, de vues urbaines et architecturales, les œuvres présentées dans cette exposition au temps de Rembrandt, témoigne de la vie au quotidien dans les Provinces Unies. Donc, le tout est monté, je vous rappelle, par le Musée des Beaux-Arts de Boston, une exposition qui propose un survol fascinant de la peinture hollandaise au XVIIe siècle, lorsque de nouveaux sujets et styles redéfinissent les genres traditionnels. Et je pense, nous sommes invités, il me semble, le 29 pour une tournée exclusivement réservée aux partenaires médias. Et on pourra, je l'espère, avoir quelqu'un parlant français pour nous donner un aperçu de cette exposition au temps de Rembrandt, des peintures hollandaises du Musée des Beaux-Arts de Boston, exposée en ce moment au Musée Royal de l'Ontario. Et puis, jusqu'au 2 juin, vous avez cette exposition dont on a parlé ici il y a deux semaines de cela, exposition Le Printemps Pélant à Toronto, à la prestigieuse galerie Thompson Landry, où il y aura, vous pourrez voir, admirer les 50 sérigraphies sur papier numérotées et signées du maître québécois, acteur principal de l'émergence du modernisme dans l'art, Alfred Pélant. Cette exposition est réalisée en collaboration avec le Musée national des Beaux-Arts du Québec. Je vous invite à aller visiter le site www.thompsonlandry.com et vous allez en découvrir en même temps toute la programmation de ce printemps dans cette galerie qu'il faut absolument visiter, Thompson Landry, à Toronto bien sûr. Et puis F. Caso, notre partenaire en musique, culture, c'est le festival Compazouk de l'Ontario qui vous donne rendez-vous du 25 juillet au 4 août. Et nous avons eu le plaisir de recevoir sa fondatrice et la directrice générale Janine Maillard la semaine dernière. Donc Festival Compazouk de l'Ontario promet une autre belle année carnavalesque, avec des musiciens, des artistes qui feront vibrer le public torontois, mais aussi il y a des gens venant un peu de partout, même du Québec, des États-Unis. Et je vous invite à nous suivre chaque dimanche pour Pourri Chaud. Vous découvrirez les scoops, les concerts, les artistes et toute la programmation tant attendue de F. Caso. Et il y aura un concert de musique à Toronto pour le grand orgue de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui a été en feu le mois dernier. Et oui, on était là, témoins. Alors le 22 mai, si cela vous intéresse, notre ami Marc-Albert Cormier, qui est notre collaborateur à l'émission, ainsi que les Français du Monde à Toronto, c'est un organisme qui aide et qui conseille les Français qui débarque sur le territoire de la ville de Toronto, vous donne rendez-vous le 22 mai prochain à la cathédrale Saint-James à Toronto. située à 106 rue King Est, 22 mai à ne pas rater dès 19h. Concert de musique pour le grand orgue de Notre-Dame de Paris. Voilà, le message est passé. Et puis quoi d'autre encore ? La grande question du dimanche. On a reçu des commentaires, mais malheureusement pas de bonnes réponses. Alors, quel est d'après vous ce grand personnage, ce grand voyageur disparu il y a 136 000 ans et qui a décidé de refaire surface chez nous ? Eh oui, sur notre Terre, planète Terre. Pas de bonnes réponses ? Alors, une espèce d'oiseau disparu il y a 136 000 ans a refait surface, son apparition sur l'île d'Aldabra, située dans l'archipel des Seychelles, et réitère l'évolution de ses ancêtres. Oui, c'est vrai, je n'invente absolument rien. Cet oiseau disparu 136 000 ans, est réapparu sur un petit îlot des Seychelles, dans l'océan Indien. Il semble être revenu d'outre-tombe. C'est ce que nous apprend en effet une étude parue dans le Zoological Journal de la Linnean Society. Cette espèce d'oiseau issu de la famille des Rallidae y vivait en effet jadis avant de disparaître il y a 136 000 ans lorsque l'îlot fut submergé. Voilà, c'est ça la bonne réponse. Je suis de retour après 136 000 ans. Et puis, un grand merci encore une fois à tous nos amis, tous ceux et celles qui étaient au rendez-vous pour nous aider dans le cadre de notre édition de sauvetage de la radio. Et c'est pas fini. Et vous étiez nombreux aussi et très, 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 très généreux donateurs. Merci mille fois. Janine Maillard, fondatrice du Festival Compazouk de l'Ontario. Il y avait Diane Chaperon-Laure, une grande amie de la radio, une femme très engagée dans la francophonie de Toronto. Elle a œuvré dans le domaine des communications. Elle est membre du comité français de l'Hôtel de Ville de Toronto. Bertrand Indefaux, fondateur et directeur général, Educ Nation Consulting Inc., notre nouveau collaborateur partenaire. Un grand merci. Kasereka Kavwa Irei, philosophe, professeur de littérature francophone d'Afrique et des Antilles à l'Université d'Ottawa au Canada. Un grand merci. Jean-Pierre Bouet, entrepreneur, chroniqueur à l'Express de Toronto, agent de spectacle, président de l'association et directeur de l'équipe Francofoot à Toronto. Et enfin, Clément Yonta Ingune, enseignant dans la région d'Ottawa. Je remercie aussi Julie, une nouvelle recrue de CUTFM de la Guadeloupe. Elle est ici depuis quelques années. Un grand merci si tu nous écoutes et j'espère te revoir bientôt. Ainsi que notre ami Sloane qui est actuellement à Paris. Ainsi que, j'ai oublié la grande dame du cinéma. Madame Marceline était aussi au rendez-vous et qui vient de nous envoyer un deuxième message. Elle est à Paris en ce moment, alors... J'espère que Marcel et Sloane vont se rencontrer dans la grande ville parisienne. Merci Marcel d'avoir été là et merci à ces nombreux auditeurs qui ont téléphoné. Je pense que juste pour notre émission, on a amassé plus de 3 000 $ et le total à ce jour ou au moment où je vous parle, selon les informations de Toronto, nous sommes rendus un peu plus de 118 000 dollars. Et ça continue à entrer dans les coffres de CUTFM. Allez sur le site www.cut.fm si vous souhaitez parrainer notre émission ou encore aider la radio CUT 89,5 FM. Un grand merci à DJ Devera à Toronto, Radio France Internationale France 24, Reflet Salvéo et tous nos amis, tous ceux et celles qui nous ont appelés pendant cette émission. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Au revoir, salut, ciao.